Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
À présent, revenez ce matin au chapitre 1 de 1 Corinthiens. Nous sommes, pour nos invités, heureux de dire que vous nous surprenez au milieu d'une étude très intéressante et passionnante. Nous parcourons le livre de 1 Corinthiens, et c'est un livre très pratique qui traite des problèmes entre chrétiens, des problèmes dans l'Église du Christ. Le chapitre 7 traite des problèmes liés à la question du mariage. Ce matin, alors que nous arrivons au verset 25 à 40, nous entamons une section très intéressante que j'ai intitulée « Les raisons de rester célibataire ». C'est un titre inhabituel. C'est un sujet très inhabituel. Une section très inhabituelle de l'Écriture. Si vous êtes venu ce matin en tant que visiteur, espérant entendre un grand traité de théologie, ou peut-être que vous êtes venu avec l'espoir d'entendre, en quelque sorte, comment devenir chrétien, nous serons heureux de vous en parler personnellement après le culte. Mais ce matin, nous allons aborder le texte qui est devant nous. Un texte très inhabituel, qui traite des raisons de rester célibataire. À Grace Church, nous ne sommes pas convaincus que le mariage est mauvais. Je suis marié et la plupart des membres de cette église sont soit mariés, soit inquiets à ce sujet. Nous ne sommes pas contre le mariage, mais la Bible est très équilibrée dans le domaine du mariage et reconnaît que, pour certaines personnes, le célibat vaut mieux que le mariage, parce que Dieu leur a donné la capacité de rester célibataire et que l'Église doit maintenir un équilibre dans sa compréhension. Même si Pierre appelle le mariage la grâce de la vie et même si Paul exalte le mariage en tant qu'image de la relation de Christ avec l'Église, qu'il déclare même que le mariage est la norme, et même si notre Seigneur Jésus a reconnu la force du lien du mariage dans Matthieu 19, il est toujours vrai que pour certaines personnes, la solitude est meilleure. La norme du mariage qui est présentée à travers les Écritures ne veut pas nous faire penser que quiconque est célibataire est anormal. Ce n'est pas le cas. Un enseignant de la Bible a déclaré que si vous êtes célibataire, vous êtes incomplet. Est-ce vrai? Je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas que ce soit vrai que les célibataires soient des perdants, que les célibataires soient des inadaptés, que les célibataires soient incomplets, anormaux. Et pourtant, je pense que notre société, du moins notre société chrétienne, a tendance à penser cela. Dès que nos filles atteignent l'âge de 19 ou 20 ans, nous commençons à paniquer si elles n'ont pas de petite amie. Dès que nos filles sont entre 20 et 25 ans, nous paniquons vraiment. S'ils ont plus de 25 ans et n'ont pas trouvé de fille, nous commençons à nous demander s'ils ont ou non un problème secret que même les parents ne savent pas. Je ne sais pas, ou peut-être existe-t-il une sorte de bizarrerie de personnalité qui ne se manifeste que lorsqu'ils sont entourés de filles, et c'est ce qui supprime la possibilité d'une telle relation. Nous avons tendance à pousser nos enfants dans le mariage. La première considération que nous avons à l'égard de nos enfants est la suivante. Nous devons vous trouver la bonne personne pour vous marier. Nous forçons la question, et très souvent les mariages s'avèrent désastreux parce qu'ils sont le résultat d'une incitation de la part des parents plutôt que la conception de la volonté de Dieu. Ce que nous allons voir ce matin, et probablement la semaine prochaine, parce que je doute que nous terminions ce matin, c'est que si un père est vraiment sage et nous impliquerions aussi la mère dans cela, plutôt que de commencer à chercher un partenaire pour son enfant, il commencerait par considérer que la meilleure chose pour cet enfant pourrait être qu'il reste célibataire, que ce soit le point de départ, et que le mariage soit le second choix. Maintenant, c'est peut-être un peu différent de ce que vous pensiez, mais tout ce chapitre ira dans ce sens. Maintenant, la Bible enseigne comment être célibataire. En fait, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, nous avons déjà vu trois principes de base sur le célibat. Premièrement, être célibataire, c'est bien. Le verset 1 du chapitre 7 dit qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Nous avons vu que l'expression « toucher une femme » signifie avoir une relation sexuelle. C'est bien pour un homme d'être célibataire. C'est bien pour certaines personnes de ne pas se marier. Tout d'abord, être célibataire, c'est bien. Deuxièmement, être célibataire est un don. Dieu donne à certaines personnes les charismata du célibat. Verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est bien, si vous avez le don, de rester célibataire. Troisièmement, nous avons appris que votre état matrimonial n'a aucun rapport avec le salut. Lorsque vous devenez chrétien, il ne vous incombe pas de vous marier immédiatement. Il ne vous incombe pas non plus d'être immédiatement célibataire et de vous séparer de votre femme ou de votre mari afin d'obtenir une plus grande dévotion à Dieu. C'est précisément le conflit à Corinthe. Les Juifs disaient que vous deviez vous marier. Les païens disaient que vous deviez être célibataire ou ascétique, et l'apôtre Paul disait que non. Verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez au verset 24, le texte dit « Quand vous avez été sauvé, restez dans cet état. Si vous êtes célibataire, c'est bien. Si vous êtes marié, c'est bien. Très bien. » Maintenant, nous avons appris que la solitude est bonne. Le célibat est un cadeau. Et si vous ne le possédez pas, n'essayez pas d'être célibataire. Vous ne pourrez que vous frustrer. Donc, le célibat n'est pas nécessairement lié au salut. Vous n'êtes pas obligé de vous marier immédiatement après avoir été sauvé. Et vous n'êtes pas obligé de vous séparer immédiatement après avoir été sauvé. Que vous soyez célibataire ou marié, vous pouvez vous abandonner à Dieu. Maintenant, dans les versets 25 à 40, Paul développe cette présentation de base. Selon le verset 1 du chapitre 7, les Corinthiens posaient des questions sur ce que Paul avait écrit, et Paul répondait aux questions directes qu'il posait. Et la question à laquelle il répond est la suivante. Doivent-ils se marier? Est-il mieux d'être célibataire pour servir Dieu avec un cœur dévoué et un seul esprit? Ou est-il nécessaire de se marier, comme le disaient les traditionalistes juifs, pour accomplir la volonté de Dieu? Les Juifs ont dit que vous deviez vous marier, sinon vous violeriez l'ordre de Dieu de reconstituer la terre. Et les païens, issus de la sèse philosophique, disent que mieux vaut être célibataire, car vous pouvez vous consacrer totalement à Dieu. Paul dit que les deux sont bons. Certains ont le don du célibat, et ils l'assument, c'est bien. Certains n'ont pas le don de rester célibataire. C'est mieux pour eux de se marier. C'est bien aussi. Remarque, être célibataire ou marié n'a aucun rapport avec la spiritualité. Les célibataires ne sont pas plus spirituels que les mariés. Mais maintenant, pour essayer d'inciter les personnes qui ont le don de célibat à utiliser ce don sans se marier, il ajoute des versets 25 à 40. Et c'est un encouragement pour les célibataires afin de voir si Dieu leur a donné ou non ce don et s'ils doivent rester célibataires. Maintenant, reprenez le verset 25 et commençons à cet endroit. En ce qui concerne les vierges, je n'ai aucun commandement du Seigneur, mais j'exprime mon jugement, comme ayant obtenu la miséricorde du Seigneur pour être digne de confiance. Maintenant, en ce qui concerne parthenoï, le mot vierge, à qui cela fait-il référence? Des groupes étranges et bizarres ont exprimé plusieurs opinions, mais il n'y a aucune difficulté à interpréter le mot. Le mot signifie simplement vierge. Parthenoï signifie simplement vierge, quelqu'un de célibataire. Maintenant, puisqu'il est utilisé avec l'article féminin, il fait référence aux filles non mariées. Les femmes vierges est l'objectif de la déclaration. Concernant maintenant les vierges, il pense précisément aux filles. Je pourrais ajouter qu'une fois dans Apocalypse 14, 4, le mot est utilisé pour désigner les célibataires. Mais ici, dans l'article féminin, il a à l'esprit les filles célibataires. En ce qui concerne les filles célibataires, dit-il, c'est-à-dire les femmes non mariées, les filles vierges non mariées, je n'ai pas de commandement du Seigneur. À présent, lorsque le Seigneur règle une question par une déclaration directe, Paul le dit. Par exemple, au verset 10, il dit, le Seigneur a dit, ne laissez pas la femme quitter son mari, et il cite Jésus. Il dit ici maintenant, en ce qui concerne les filles célibataires, je n'ai aucun commandement de Jésus. Il n'a rien dit. Et il entend par là, je ne peux citer aucune parole enregistrée de Christ. Jésus n'a rien dit à ce sujet. Lorsque le Seigneur avait déclaré un ordre, Paul le précisait. Quand le Seigneur n'avait pas donné d'ordre, Paul le disait aussi. Au verset 12, il dit « Au reste, c'est moi qui le dis, pas le Seigneur. » En d'autres termes, voici quelque chose dont je vais parler maintenant. Cela ne montre pas moins d'autorité. C'est juste que le Seigneur n'a rien dit à ce sujet. Il ne peut donc pas citer Christ. Alors il dit « Maintenant, le Seigneur n'a rien à dire à ce sujet, mais je porte mon jugement. » Remarquez-le au verset 25. Et pas seulement comme un homme ordinaire, mais comme un homme qui a obtenu la miséricorde du Seigneur d'être digne de confiance, ou en étant crédible. Je donne mon jugement. Cela veut-il dire que c'est l'opinion de Paul? Pas vraiment. Vous voyez, il y a des problèmes dont le Seigneur a parlé, et il y a des problèmes dont le Seigneur n'a pas parlé. Maintenant, remarquez ceci. Si le Seigneur n'en a pas parlé, les apôtres en ont souvent parlé. Maintenant, parfois, quand les apôtres parlaient, ils donnaient des dictons absolus et autoritaires, mais parfois, ils ne donnaient que des directives, parce qu'il n'y avait pas d'absolu. Dans cette section, il dit « Regardez, je vous donne une directive, je vous donne un bon conseil. » Incidemment, ce n'est pas seulement le conseil de Paul, c'est le conseil du Saint-Esprit à travers lui, mais ce ne peut pas être un absolu. Il ne peut pas dire « Vous devez toutes être célibataires » ou « Toutes doivent être mariées », car pour certaines, il y avait le mariage et pour d'autres le célibat. Il dit « Laissez-moi vous donner quelques conseils sur les principes généraux à appliquer dans chaque cas. Je vous donne mon jugement à ce sujet. Je vous donne des directives générales. Elles ne sont pas indépendantes du Saint-Esprit. » Au verset 40, il dit « Et je considère, pas je pense, dans les termes de notre utilisation en français ou en anglais, mais je considère que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. » Et c'est un peu sarcastique, parce que ceux qui avaient des questions disaient « Nous avons l'Esprit de Dieu. » Et Paul dit simplement « Je considère que j'ai l'Esprit de Dieu, moi aussi. » Donc l'Esprit de Dieu était derrière tout cela. C'est le conseil de Paul. Ses principes généraux, de régir toute l'attitude des croyants envers le célibat. Maintenant, en ce qui concerne les filles vierges, je ne peux donner aucune citation directe du Seigneur, mais je vais vous donner mon opinion ou mon jugement, mon évaluation, non seulement en tant qu'homme moyen, mais en tant que quelqu'un ayant obtenu la miséricorde du Seigneur appelé à être fidèle. Ce n'est pas seulement le conseil d'un homme sage, mais le conseil de celui qui a obtenu la miséricorde du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui était digne de confiance. 1. Qui, par la miséricorde spéciale de Dieu, avait reçu un aperçu inhabituel de la vérité. Je vous parle en tant que pistos. C'est le mot traduit ici par fidèle. Cela signifie crédible, digne de confiance. C'est un usage fréquent de ce mot dans le Nouveau Testament. Digne de confiance. Vous pouvez faire confiance à mon jugement. Par sa miséricorde, Dieu m'a donné des idées inhabituelles sur la vérité auxquelles vous pouvez faire confiance. Paul s'est senti redevable de la miséricorde de Christ pour les vérités intérieures qu'il avait. Christ, par sa grâce, avait fait de lui un prédicateur crédible, avait fait de lui un apôtre confirmé. Ainsi il dit, « Vous, Corinthiens, vous pouvez accepter la sagesse, vous pouvez accepter ses principes, vous pouvez les accepter avec confiance parce que le Christ m'a accordé une grâce particulière. Il a été exceptionnellement miséricordieux envers moi. » Dans ces grâces intérieures, qui me permettent de dire la vérité. Maintenant, laissez-moi résumer ce qu'il entend par le verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point reçu d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Maintenant, regardons le verset 26. Voici donc ce que j'estime bon. Arrêtez là. Ensuite, allez à la fin du verset. Il est bon à un homme d'être ainsi. Voici donc ce que j'estime bon. Maintenant, le mot « estimé » est encore trompeur. Le mot « estimé », en fait, Paul ne dit pas « Voyons voir, j'estime ». Non. « Nomizo » en grec signifie « je tiens » ou « je considère ». Ce n'est pas une supposition, mais une conviction. Je suis convaincu que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? C'est bon pour un homme d'être ainsi. Quoi donc? Vierge? Célibataire? Il ajoute ici le concept de l'homme à la forme féminine au verset 25. C'est bien d'être célibataire. C'est bien d'être célibataire, dit-il. Il est bon d'être un célibataire vierge. Nous avons déjà vu cette idée dans 1 Corinthiens 7, 1 et 7, 8. Deux fois, il dit que c'est bien d'être célibataire. Être célibataire n'est pas mauvais, si vous avez le don. Et c'est pourquoi il est ridicule que l'Église fasse des erreurs de jugement pour des célibataires. Et je pense que, de nos jours, en ce moment, il y a une pléthore d'informations sur la famille. La famille, c'est bien, et nous devons nous concentrer sur la famille. De toute évidence, il faut y mettre beaucoup d'attention. Mais en même temps, il doit y avoir un équilibre et une considération de ce que c'est que d'être célibataire, et d'avoir toujours l'identité et l'acceptation sur une base d'égalité dans la vie spirituelle, comme toute personne mariée, et ne pas penser être particulièrement anormal. Si vous avez le don, c'est une bonne chose. Ne cherchez pas à vous marier. C'est une bonne chose de rester célibataire. Maintenant, c'est le conseil de Paul, et cela vient du Saint-Esprit. Paul soutient cette idée en donnant 5 raisons de rester célibataire. Nous allons simplement aller aussi loin que possible ce matin, et voir où nous en sommes. La première raison de rester célibataire, et certains d'entre vous qui sont mariés, vont peut-être s'identifier à ces raisons, et se dire « je savais que j'aurais dû rester célibataire ». D'autres d'entre vous, qui sont très préoccupés par la pression sociale pour se marier, peuvent réaliser que cette pression sociale n'est que cela, une pression sociale, et non la volonté de Dieu. Et vous changerez d'idée sur cette poursuite pour votre vie. Quelles que soient les intentions de Dieu, nous prierons pour qu'il vous aide à les appliquer dans votre vie. Très bien. La principale raison de rester célibataire est la pression du système. Remarquez le verset 26. Voici donc ce que j'estime bon. Qu'est-ce qui est bon? Que c'est bon pour un homme d'être ainsi? Être comment? Être célibataire. Pourquoi? À cause de la détresse actuelle. Le voyez-vous au milieu du verset 26? À cause de la détresse actuelle. En raison de la nécessité immédiate, pourrait être une traduction plus littérale. En raison de la nécessité immédiate, à cause de la détresse actuelle. Maintenant, le mot âne en queue, ici, a une signification secondaire, ce qui, à mon avis, est très utile pour expliquer le passage, c'est-à-dire qu'il signifie violence. L'apôtre Paul dit en passant, il est utilisé pour parler de violence, et il se traduit mieux ainsi dans Luc 21-23. Où il est question de la violence de la grande tribulation. Il fait référence à la violence dans 1 Thessaloniciens 3, 7, 2 Corinthiens 6, 4 et 2 Corinthiens 12, 10. Le même mot se réfère à la violence et est mieux traduit par violence. Ici, je pense que c'est aussi la meilleure traduction. Il vaut mieux être célibataire à cause de la violence immédiate ou actuelle. Qu'entendez-vous par là? Kittel dit que cela dénote les tensions qui existent entre la nouvelle création en Christ et le vieux cosmos. En traquant l'usage de ce mot dans le Nouveau Testament, Kittel avance l'idée que lorsqu'une personne devient chrétienne, elle entre immédiatement dans un conflit violent avec le système. Paul parle de la violence et de la détresse, de la douleur et de la souffrance que peut ressentir quiconque confesse le Christ. Paul dit qu'il est difficile d'être chrétien et qu'il est particulièrement difficile d'être un chrétien marié, en raison de la détresse et de la violence du système. Maintenant, Paul avait eu de nombreuses expériences qui nous aideront à comprendre cela. Paul est allé dans une ville et il a été battu. Il est allé dans une autre ville pour être lapidé. Il est entré dans une autre ville et ils lui ont donné des coups de fouet. Dans une autre ville, ils l'ont mis en prison. Tout au long de la vie de cet homme, il y a eu douleur et souffrance. Maintenant, pouvez-vous imaginer l'intensité avec laquelle ce problème serait amplifié si l'apôtre Paul avait eu une chère femme à la maison et un groupe de petits apôtres courant partout? Cela aurait été beaucoup plus compliqué, et pendant toutes les violences endurées par Paul, il aurait gardé une pensée dans sa tête. Mais si cela m'arrive, alors qui prendra soin de ma femme, et qui prendra soin de mes enfants? Et comment puis-je continuer à faire cela, alors que ma femme est à la maison dans la peur et le chagrin constant, et que mes enfants ont peur que leur père ne revienne jamais? Je dois être à la maison, prendre soin d'eux, les nourrir, les élever. C'est ma principale obligation. Vous voyez, dans la violence du monde dans laquelle vivait Paul, le mariage était une lourde charge pour un chrétien, du moins dans le sens du ministère qu'il exerçait. Les chrétiens corinthiens se souvenaient très bien de ce que les juifs corinthiens avaient essayé de faire à Paul au moment même où il était venu dans leur ville. Maintenant, Paul dit, à cause de la Remarquez ceci, de la violence présente ou immédiate. Paul anticipe quelque chose ici. Il y aura une violence qui va arriver quand la grande persécution païenne éclatera. Et Paul peut la voir venir. Il savait qu'une fille mariée, un homme marié, élevant des enfants, risquait de subir les pertes déchirantes, qui ne peuvent que toucher ceux qui ont une famille lorsque la persécution éclate. Comme je l'ai dit, il savait que dans sa vie, il était bon qu'aucune épouse ni qu'aucun enfant ne soit obligé de pleurer et de vivre avec un cœur brisé et craintif chaque fois qu'il se rendait quelque part. Les temps difficiles allaient arriver à l'Église, et Paul en était conscient. Le changement d'attitude païenne envers les chrétiens était dans le vent. Vous dites, comment l'a-t-il su? En premier lieu, Jésus l'avait prédit. Dans le chapitre 15 de Jean, verset 18, Jésus le dit quand il promit aux disciples qu'ils allaient subir la persécution. « Si le monde vous hait, vous savez qu'il m'a haï avant vous. Si tu étais du monde, le monde s'aimerait lui-même. Mais parce que tu n'es pas du monde, je t'ai choisi hors du monde. Donc le monde te déteste. Maintenant le monde vous hait. C'est assez clair. Dans le verset 2 du chapitre 16, il dit « Ne soyez pas surpris si vous êtes offensés. Ils vous mettront hors des synagogues. Le moment est venu où quiconque vous tue pensera qu'il sert Dieu. » Jésus avait prédit que cela arriverait. Paul pouvait le voir à l'horizon. Par exemple, laissez-moi vous donner un peu d'histoire. La première persécution effrayante a éclaté sous Néron. Les historiens nous disent que les barbaries infligées aux chrétiens lors de ces premières persécutions excitaient la sympathie des Romains eux-mêmes. Néron raffina la cruauté par-dessus la cruauté et continua toutes les façons et tous les styles de persécution. Des chrétiens ont été cousus dans la peau de bêtes sauvages, puis livrés à des chiens pour être déchirés en morceaux. D'autres portaient des vêtements raidis avec de la cire. Il fixa ces personnes aux arbres, puis les alluma comme des bougies pour éclairer son jardin. Cela s'est produit au cours des premiers siècles de l'Empire romain. Selon le livre des martyrs de Fox, Erastus était l'un des martyrs de la première persécution, et Erastus était le chambellan ou le trésorier de la ville de Corinthe. Ce que cela nous dit, c'est que la persécution de Néron s'est étendue à Corinthe et a coûté la vie à l'un des hommes nommés dans la Bible, l'un des chrétiens de Corinthe. Maintenant, Paul savait que cela arrivait aux Corinthiens. Il pouvait le voir à l'horizon, et à la lumière de cela, il dit « Mon conseil est que, si vous avez le don, restez célibataire. Gardez à l'esprit que tous les conseils sont destinés à ceux qui ont le don, parce que forcer quelqu'un à rester célibataire s'il n'a pas le don, c'est le forcer à brûler de désir toute sa vie, et cela ne produit rien. Mais si vous avez le don, dit-il, c'est la supposition de base de tout cela. Ne vous mariez pas, à cause de la pression qui vient, de la pression du système contre le croyant. Le verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. En d'autres termes, je ne dis pas de ne pas se marier. Je ne veux pas de malentendus là-dedans. Ne divorcez pas de votre femme. En fait, au verset 10, il dit « Ne laissez pas la femme quitter son mari. Quelle que soit la détresse, les mariés doivent la supporter. Mais si vous avez le choix et le don, ne cherchez pas le mariage. Restez comme vous êtes, dit le verset 27. La question qui me vient à l'esprit est la suivante. Comment cela se traduit-il en 1976? N'oubliez pas que Paul parle de ceux qui ont le don. Avons-nous des personnes aujourd'hui qui ont le don du célibat? Qu'est-ce que cela signifie pour eux de connaître la détresse actuelle? La pression du système? Sommes-nous confrontés dans notre monde à une période de détresse? Sommes-nous confrontés dans notre monde à une période de violence comme c'était le cas au premier siècle? Sommes-nous confrontés à une période de persécution? Certains disent que oui. Selon notre Seigneur Jésus, dans Matthieu 24 et 25, dans son enseignement sur le mont des Oliviers, au sujet de la fin des temps, il a déclaré que la fin des temps serait caractérisée par la guerre froide et chaude, par la famine, la maladie, le tremblement de terre et la persécution. Certainement, la période la plus difficile sera celle connue sous le nom de Grande Tribulation, après le départ de l'Église du monde. Mais il semble évident que certaines de ces choses deviennent rapidement une réalité, avant l'enlèvement de l'Église. La surpopulation, la pollution, le crime, l'immoralité, les faux prophètes, le péché terrible, toutes sortes de choses sont déjà à l'horizon et sont inévitables de notre vivant. Et si Paul avait raison en écrivant à Timothée que les hommes méchants seront de pire en pire, alors cela ne peut qu'empirer. Il avait raison. Au mieux, le monde est peu sûr, explosif. Il existe un livre intéressant, intitulé « The Year 2000 », écrit par Herman Kahn et Anthony Wiener. C'est ce qu'ils ont prédit pour l'an 2000. On dirait qu'ils ont lu Matthieu 24, sauf qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est ce qu'ils prédisent, invasion et guerre, troubles civils et révolutions, famine, maladie, persécution par le despotisme, c'est-à-dire par dictature, catastrophe nationale et dépression ou stagnation économique, etc. Telles sont les prédications de ceux qui observent le monde de manière analytique, et c'est précisément ce que dit Matthieu 24. C'est un monde difficile, et le mariage ne fait que compliquer les choses à cause des problèmes de soins pour votre femme, pour votre mari et pour vos enfants. Alors, Paul dit que c'est un jour de pression. Tout le temps de la fin, à partir du moment où Jésus est arrivé jusqu'à son retour, tout ce temps est dominé par un système de pression établi contre le chrétien. Nous devons anticiper la souffrance pendant tout ce temps, la haine du monde. Et donc Paul dit que si vous avez le don et que vous ne brûlez pas de désir physiquement et sexuellement, si l'Esprit de Dieu vous a donné le don du célibat, alors contentez-vous de votre état à cause de la pression du système qui est ici et qui va encore s'empirer à l'avenir. Je pense que nous sommes tous d'accord que, pour le chrétien, plus nous approchons de la fin, plus le prix à payer pour notre foi sera élevé. Cela doit être vrai. Si les hommes pervers augmentent en puissance, et si l'apostasie se déchaîne, et si le mystère de l'inégalité fonctionne déjà, avançant vers le mal de la tribulation, alors Satan se battra avec d'autant plus de vigueur et de force vers la fin, et la persécution augmentera, et beaucoup paieront des prix élevés. Il dit donc que si vous êtes célibataire, restez ainsi, si vous avez le don, vous serez plus libre. Donc restez célibataire, numéro 1, à cause de la pression du système contre le christianisme. Numéro 2, à cause des problèmes de la chair. Maintenant, le verset 28 identifie cela pour nous. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Il veut s'assurer que nous comprenions que ce n'est pas un péché de se marier. Il ne veut pas de malentendu. Il n'est pas contre le mariage. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. Le mariage n'est pas un péché. La majorité des gens se marient. C'est le dessein de Dieu. Une belle chose. Une chose sainte. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Ainsi, les célibataires et jeunes filles vierges peuvent se marier sans péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Maintenant, c'est très intéressant. Remarquez la déclaration suivante. Ces personnes auront des tribulations dans la chair. Ces personnes englobent tous les cas, pas seulement les vierges, mais tous les célibataires, hommes et femmes. Tribulation, c'est un mot intéressant. Connaissez-vous l'une des choses qui se produit lorsque vous vous mariez? La difficulté. Des problèmes surviennent dans le mariage. Vous dites, dans notre mariage? Oui, dans votre, dans mon mariage. Je ne peux pas y croire. C'est vrai. Des problèmes surviennent. Vous dites alors, d'où viennent-ils? Les problèmes viennent de quoi? De la chair. Savez-vous ce que nous avons réalisé dans notre mariage? Que nous sommes tous les deux des pécheurs. Ma femme est une pécheresse. Je ne suis pas précis, mais je vous dis simplement la vérité. Ma femme est une pécheresse. Vous savez ce qui est encore pire que cela. Je suis un pécheur. Vous savez ce qui se passe lorsque vous associez deux pécheurs. Des problèmes. Quand beaucoup de petits pécheurs entrent dans votre maison, vous savez que chacun de vos enfants est dépravé. Avez-vous reconnu cela chez vos enfants? Nous parlions de Melinda hier. Melinda est particulièrement dépravée et elle n'a que 2 ans. Mais savez-vous qu'une première réaction à une situation difficile est de mentir? C'est automatique. Maintenant, je suis en train de lui apprendre que ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est la mauvaise approche. Mais c'est automatique. Nous avons 6 personnes à la maison, toutes totalement dépravées. Maintenant, vous savez ce que cela signifie. Des problèmes. De la tribulation dans la chair. Tout mariage rencontre des problèmes. Maintenant, la chair. Que signifie la chair? Sarx, en grec. C'est notre nature charnelle. Maintenant, laissez-moi vous donner une définition simple. Cela vient du fait que nous sommes humains, et c'est l'humanité dans le mariage qui cause des problèmes, bien que le Saint-Esprit veuille une unité parfaite. l'humanité crée des problèmes. Paul a en tête les problèmes de notre humanité, les problèmes toujours présents dans la vie conjugale. Maintenant, qu'en est-il de ces problèmes? C'est le mot « klipsis » en grec, qui signifie littéralement « pression ». Il vient d'un mot grec qui signifie « serrer ensemble », qui était utilisé pour décrire comment écraser des raisins. Maintenant, vous savez que le mariage est une pression, n'est-ce pas? C'est un écrasement. Dans ce genre de pression, l'humanité va se manifester. Vous connaissez le genre de problème que l'humanité apporte. Laissez-moi vous raconter certaines des choses créées par l'humanité. La colère. Avez-vous déjà eu de la colère dans votre mariage? Dans votre maison? Oh, cela arrive de temps en temps. L'égoïsme. Avez-vous déjà eu cela? Que diriez-vous de la stupidité? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment quelqu'un pourrait-il se trouver à découvert dans son compte bancaire? C'est l'humanité. Notre partenaire dit « Puis-je savoir ce que tu as fait avec cet argent ?»« Maintenant, je ne peux plus te faire confiance, tu sais. L'oubli, c'est la troisième fois que tu as oublié mon anniversaire. Cela crée des problèmes. La malhonnêteté, tu ne dis pas la vérité. Le péché secret, la fierté. La fierté nous fait construire des murs d'ego qui empêchent les autres de nous atteindre. Et la communication est coupée, vous voyez ? La légèreté, l'abus. Vous savez, dans une maison, les personnes disent « Si je pouvais juste me marier, cela réglerait mes problèmes. Mon ami, si vous vous mariez, vous allez aggraver vos problèmes, et quelqu'un d'autre sera obligé de les subir avec vous. C'est le fait d'être humain, et cela fait partie des problèmes dans un mariage. C'est pourquoi les personnes les plus malheureuses du monde ne sont pas célibataires. Est-ce que vous avez compris cela? Les personnes les plus malheureuses du monde sont mariées. Dans un mariage qui ne fonctionne pas, Paul Seilhammer déclare, et je cite, « La seule chose pire que d'attendre est de souhaiter de l'avoir fait depuis longtemps. La misère est beaucoup plus prononcée dans un mariage, beaucoup plus élevée que celui d'un célibataire, parce que vous êtes plaqué contre cette autre personne, et que tout ce qui ne va pas en vous continue de vous être renvoyé au visage, et vous devez constamment vous adapter. Tous les mariages ont des difficultés. Il provoque des relâchements de la chair. Il y a des difficultés, des sacrifices, parce que les deux personnes sont humaines et les enfants sont humains, et ils ajoutent beaucoup de dépravation à la scène, et tout devient plus complexe. Si Dieu vous a donné le don de rester célibataire, restez dans cet état pour éviter les problèmes d'humanité inhérents au mariage. Ne considérez pas le mariage comme une solution à vos problèmes. Il les magnifie, vous savez. Nous disons toujours que le mariage ne change jamais rien. Il intensifie tout ce que vous êtes et oblige quelqu'un d'autre à vivre avec vous. Si vous voulez résoudre vos problèmes, vous allez les résoudre indépendamment de votre mariage. Des personnes m'ont dit « Vous savez, j'ai un problème sexuel énorme, des désirs, et cela me pousse jusqu'au péché. Si seulement je pouvais me marier. » Vous savez ce qui se passe quand ils se marient? Rien ne change. Ils ont toujours les mêmes convoitises et les mêmes désirs, même s'il y a un épanouissement sexuel dans le mariage. S'il s'agit d'un problème de péché qui n'a pas encore été réglé, il y aura tout autant de convoitises illicites dans le mariage qu'auparavant. D'autres personnes disent « Je suis si seul. Si seulement je pouvais. Si je pouvais juste me marier et avoir quelqu'un avec moi. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes dans le monde que vous pourriez connaître et aimer, pour ne pas se sentir seul. Et en général, une personne très isolée se marie et dessine des murs autour d'elle-même. Même si elle est mariée, elle rend quelqu'un d'autre solitaire. Le mariage n'est pas la solution à vos problèmes. Le mariage est la solution à une chose pour le chrétien, et à une seule, c'est la nécessité d'obéir à la volonté de Dieu. Si Dieu veut que vous soyez mariés, alors mariez-vous à la bonne personne. Seulement si cela est clairement la volonté de Dieu. Mais si vous avez le don de rester célibataire, vous évitez les problèmes spécifiques de la chair, qui viennent avec le mariage, ainsi que les contraintes du système. Troisième chose. La troisième raison de rester célibataire est le passage de ce monde. La pression du système, les problèmes de la chair, et le passage du monde. Regardez le verset 29. Je vais lire les versets 29 à 31, parce que tout va ensemble. Mais je dis ceci, frère, le temps est court, littéralement le temps est raccourci. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe, l'état de ce monde est en train de disparaître. Maintenant, que dit-il ici? Il dit, eh, le mariage fait partie du dessein de ce monde, et c'est quoi? En train de disparaître. Le mariage n'a aucun rapport, écoutez ceci, le mariage n'a aucun rapport avec les intérêts éternels permanents. Je sais que cela dérange beaucoup de jeunes parce qu'ils se marient. Un couple me l'a demandé récemment, le jeune marié, et ils ont dit, si le Seigneur vient vraiment, serons-nous encore mariés au paradis? Non, c'était très décevant, ils n'aimaient pas cette pensée. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont mariées depuis longtemps, qui attendent l'enlèvement parce qu'elles cesseront d'être mariées. Mais il n'y a pas de mariage au ciel, pas du tout. Je sais que les Mormons ont un accord complexe, très sophistiqué sur les mariages éternels. Mais c'est de la foutaise, il n'y a pas de mariage au ciel. Le mariage fait partie de ce stratagème de passage. C'est ce qu'il dit. C'est comme une émotion humaine. C'est comme des possessions humaines. C'est comme les plaisirs humains. Tout cela fait partie de ce système et disparaît. Le temps est raccourci. Kairos. Le temps fixé. Kairos signifie l'heure fixée, l'heure désignée. Dieu a établi un moment fixé. Il est raccourci, il est enroulé. Le temps imparti dans ce monde est bref. Jacques a dit que votre vie est une vapeur, n'est-ce pas? Il apparaît pour un peu de temps et disparaît. Qui peut prédire demain? Qui sait ce que demain apportera? Quelle est votre vie? Brève. Une petite bougie vacillante qui disparaît avec le premier souffle du vent divin de Dieu. Jacques 1:10 dit. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. La vie est courte, même pour les riches. Dans 1 Pierre 1:24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15-17. Vous voyez, le mariage fait partie d'un système de passage. Si vous avez un don pour le célibat, alors cela fait partie du système de passage, et vous n'en avez pas vraiment besoin. C'est le dessein de Dieu, et c'est ce qu'il dit. C'est le dessein de Dieu que nous nous attachions légèrement aux choses terrestres, que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. En d'autres termes, cela ne veut pas dire que vous devez maltraiter votre femme, ou que vous n'avez pas besoin de remplir vos obligations. Non, non. La Bible est claire à ce sujet. Mais il faut se rappeler que c'est la réalité éternelle qui compte. Colossiens 3, 2 ajoute un mot que j'estime important. Aimez votre femme, Marie. Mais écoutez ce que Colossiens 3, 2 dit. Affectionnez-vous aux choses quoi, d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Vous pouvez aimer votre femme et en même temps garder à l'esprit vos priorités et vos perspectives. Maintenant, Paul donne 5 exemples de la libération du chrétien par rapport au monde qui passe. Le mariage, les pleurs, les réjouissances, les achats et les plaisirs mondains. Ils font tous partie du système qui passe. Le mariage, par exemple, dit-il au verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ne vous attachez pas exclusivement au mariage. Cela fait partie du monde qui passe. Luis Polo disait qu'une des choses qui est si difficile dans le monde aujourd'hui, c'est que les personnes sont devenues tellement super attachées à l'idée du mariage que vous ne pouvez les amener à faire quelque chose d'autre pour servir le Seigneur. Il dit, parfois, sur le terrain, le champ de mission, nous essayons de faire partir quelques missionnaires pour une mission spéciale d'un mois, et ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ne veulent pas laisser leur femme, disent-ils. Il doit y avoir un équilibre. Il doit y avoir une sorte d'équilibre entre aimer votre femme et prendre soin de votre famille. Et nous avons vraiment poussé cela au maximum. Et d'autre part, reconnaître que le mariage doit être traité comme une chose terrestre. Ce que nous faisons selon les valeurs éternelles est ce qui est vraiment conséquent. Écoutez, le mariage va céder le pas à la vie de famille céleste avec Dieu le Père. Christ le mari, et tous les croyants, la femme, n'est-ce pas? Vous dites, qu'est-ce qu'il veut dire par pleurer? Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas, et ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à l'émotion humaine non plus. Ne montez pas, et ne tombez pas avec ce qui se passe dans votre monde. Ne soyez pas trop chargés par ce qui se passe. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, un membre de leur famille meurt, et il craque. Il tombe en morceaux. Ils ne valent rien. C'est ridicule pour un chrétien. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une chose temporelle. De toute façon, vous allez passer toute l'éternité avec eux. Comme c'est ridicule, car souvent, quand une femme perd son mari, elle plie sa tente et s'enfuit dans la nuit. C'est la fin. Ou un homme perd sa femme, et tout est fini. Il ne peut pas s'adapter. Pourquoi? Parce qu'il a donné trop d'importance au mariage, et il ne peut contrôler les pleurs qui s'ensuivent. Ne vous laissez pas envahir par les émotions humaines. Écoutez, quand nous arriverons au ciel, Dieu essuiera toutes nos larmes. Qu'en est-il de se réjouir? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas trop vous satisfaire du système. Ne vous réjouissez pas de tout ce qui réjouit le monde. Ne soyez pas victime de l'émotion du monde. C'est ce qu'il dit. Ne soyez pas trop attaché aux relations du monde, ni à l'émotion du monde. Vous êtes une créature d'un autre monde. Maintenant, qu'en est-il du quatrième point, l'achat, à la fin du verset 30. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ne soyez pas trop occupés par les produits de base du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, dit 1 Jean 2,15. Il dit simplement, « Regardez, vous êtes dans le monde, et vous en faites partie, mais n'attachez-vous pas à ces relations, à ces émotions et à ces produits. Écoutez-moi, mon peuple. » Le quatrième point est difficile, n'est-ce pas? Je vous le dis, certains d'entre nous possédons presque chacune des choses qui existent dans ce monde, qui peut s'acheter financièrement, et presque toutes nos préoccupations mentales sont liées aux produits de base du monde. Nous sommes plus inquiets pour notre compte en banque que pour notre vie spirituelle. Nous sommes plus préoccupés par la façon dont nous décorons nos maisons et par l'esthétique de nos voitures que par les réalités spirituelles et les vérités éternelles. Et nous ne sommes pas attachés légèrement au monde. Nous sommes fortement attachés au système. Donc, quand le système commence à craquer, et quand nous commençons à perdre des choses, nous ne pouvons plus nous en remettre. Affectionnez-vous sur les choses célestes. Le mariage est une chose qui passera. L'émotion humaine est une chose qui passera. Les produits de base sont des choses qui passeront. Enfin, il parle de plaisir humain. Et c'est utiliser le monde, au verset 31. C'est décrire le plaisir humain, le plaisir terrestre. Le plaisir terrestre, certains d'entre nous vivent pour le plaisir terrestre. Ils vivent pour passer de bons moments. Ils vivent pour faire ceci et faire cela, pour voyager ici et là. Et nous sommes tellement occupés à profiter de tout ce qui est dans ce monde que nous ne pouvons pas vraiment servir Dieu. Nous parlons tellement de loisirs et, vous savez, nous avons tous besoin de nous reposer de temps en temps. Nous parlons de la retraite. Nous parlons de nous échapper, et nous voulons voir des choses, faire des choses et profiter. Notre vie est si courte. Écoutez, mes amis, je me demande si l'apôtre Paul a vraiment regardé la vie comme cela. La vie ne doit pas être pour le chrétien des vacances en continu. Nous ne sommes pas dans ce monde pour le plaisir terrestre. Nous devons nous consacrer à ce qui aura des conséquences éternelles. Je préfère mourir à 40 ans et utiliser ma vie pour Dieu, que vivre jusqu'à 80 ans sans rien faire. Je pense qu'il importe que nous nous investissions dans le royaume de Dieu. Il dit, ne vous préoccupez pas de ce monde. C'est très difficile. Le monde essaie de nous convaincre d'aller ici, de voir cela, et d'acheter ce véhicule, afin de pouvoir voyager. Aller là, faire ceci, et regarder ce nouveau plaisir merveilleux. Et cela rendra notre vie plus aisée. Nous sommes vraiment plongés dans cette préoccupation du plaisir. Paul met l'accent sur les choses qui passent de la vie, dont le mariage, et il dit que la mode ou le schéma, l'état actuel extérieur des choses, est en train de disparaître. Maintenant, regardez quelle est sa conclusion. Verset 31. N'en abusez pas. Que veut-il dire? N'exagérez pas votre identification avec le monde. Utilisez le monde, mais pas trop. Soyez joyeux et profitez de votre mariage. Aimez votre femme. Donnez-vous les uns aux autres. Et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ce mariage soit un rêve. mais ne le laissez pas sortir de son cadre de façon à ce que, tout à coup, cela devienne la chose la plus importante dans votre vie, et que vous ne soyez d'aucune utilité pour Dieu. C'est bien d'être empathique. Paul dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Dans Romains 12, 15, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et réjouissez-vous toujours » dans Philippiens. C'est bien d'avoir toutes ces choses, mais ne les laissez jamais aller au-delà. N'en faites pas trop. C'est ce qu'il veut dire par abuser. Parce qu'un nouveau schéma s'en vient. Un nouveau monde. Ne surestimez pas les relations humaines. Ne surestimez pas les émotions, les possessions, le plaisir, au-dessus de leur valeur réelle. Écoutez-moi. Le mariage peut être une atteinte à la réalité spirituelle. Le chagrin peut être une distraction de la réalité spirituelle. J'ai connu des personnes si tristes qu'elles ne peuvent même pas profiter de l'expérience du Saint-Esprit. Pour la joie, c'est pareil. De même que les possessions, de même que le plaisir. Écoutez, les fils et les filles du roi devraient composer avec le mariage, dans les limites de leur relation avec le roi, quoi qu'il veuille. Vous ne devriez jamais rechercher le mariage en dehors du gouvernement de Dieu, et vous ne devriez jamais en abuser pour qu'il devienne une préoccupation. Concentrez-vous sur les choses éternelles. Maintenant, que dit Paul ? C'est plus facile à faire lorsque vous êtes célibataire. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas ce chagrin potentiel de la mort de quelqu'un que vous aimez dans votre famille. Vous n'avez pas ce souci de la vie conjugale et familiale. Vous n'êtes pas préoccupé par l'achat de biens que tout le monde dans votre famille souhaite acheter. L'un des moyens par lesquels Satan me tente au matérialisme est à travers toutes les personnes de ma famille. « Papa, je veux cela. Papa, est-ce que je peux l'avoir ? Chérie, pourquoi ne pouvons-nous pas l'acheter ? Ensuite, je le dis parfois. Je pense que nous devrions l'acheter. » Et tout le monde réagit de la même façon. Cela commence. Mon fils voulait une paire de chaussures l'autre jour. Je veux dire, il ne voulait pas n'importe quelle paire de chaussures. Il voulait une paire de chaussures d'une certaine marque. Mais je ne pouvais pas les trouver. Après avoir passé environ 3 heures à la recherche d'une paire de chaussures, j'ai déclaré « C'est une violation du temps que je consacre au travail du royaume. » Il a dit « Hein ?» J'ai dit « Pourquoi une telle paire de chaussures ?»« Juste quelque chose pour les pieds. On peut acheter n'importe quoi, et ce sera pareil. »« Non, papa, je dois avoir telle paire de chaussures. » »« Louis le Seigneur, je les ai trouvées, et je les ai trouvées pour 11,99 €. Mais c'est très difficile. » Quand on est marié, de ne pas être encombré par ce genre de choses temporelles et les dépenses nécessaires pour les acquérir. Écoutez, si vous avez le don du célibat, utilisez-le. Louez Dieu pour cela. C'est excitant. Si vous avez ce don, restez célibataire à cause de la pression du système. C'est un monde violent. Il n'est pas facile d'élever les enfants dans ce monde. Il n'est pas facile d'avoir une famille à entretenir dans ce monde. Cela va empirer. À cause des problèmes de la chair. Le mariage est un problème, et vous n'avez pas besoin de problème si Dieu vous a donné le don d'être célibataire. Le monde passe quand même, et le mariage est simplement une relation temporelle et passagère. Si Dieu ne vous y a pas forcément appelé, il n'est pas nécessaire que vous soyez marié. Vous pouvez simplement éviter cette chose temporelle et avoir encore plus de dévotion pour le Seigneur. Ces conseils sont pratiques, n'est-ce pas ? Je n'ai pas fini. Mais je devrais attendre la semaine prochaine. Prions. Père, nous savons que tu nous as donné dans notre congrégation plusieurs personnes avec le don du célibat. Et pourtant, nous savons, Seigneur, que ce n'est pas vraiment le célibat, car ils sont complets avec toi. Ils sont vraiment épanouis, et peut-être beaucoup plus que certaines personnes mariées, qui sont mariées, et qui, à cause de l'angoisse de ce mariage, sont incapables d'éprouver réellement l'accomplissement que tu souhaites pour eux. Je te remercie pour les célibataires qui ont pu se donner entièrement à toi au cours des années du royaume sur la terre sous cette forme, des missionnaires fidèles, des enseignants, des travailleurs, même dans notre propre congrégation, qui ont ce don inhabituel de rester célibataires, dédiés à toi d'une manière spéciale. Aide-nous en tant que parents, Seigneur, à peut-être rechercher en priorité ce don dans la vie de nos enfants et voir s'ils l'ont. Et si ce n'est pas la voie à suivre, défie-les et encourage-les à l'utiliser pour accomplir le potentiel qui est là. Seigneur, je tiens à te remercier ce matin également pour une autre chose. à savoir le privilège d'étudier une écriture qui nous frappe dans tous les aspects de la vie et nous laisse l'instruction qui couvre tous les domaines. Merci, Père, de pouvoir savoir d'où les problèmes viennent, de les anticiper, de nous donner ta vérité. Au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.